Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère au 88.4, vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous enregistrons ceci le mercredi 26 novembre, mais vous l'entendrez le 7 janvier de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain du coup, de 9h à 10h, puis sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour sans racines, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre place à prendre du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Félix Tédelin et je suis accompagné ce soir de Mathieu Cheminal.
Salut Félix.
Et de Marin Moffret.
Bonsoir à toutes et tous.
Nous recevons ce soir Hugo Gattuso. Hugo, tu es le président de l'association Un Prétexte qui organise des conférences citoyennes.
Alors plus précisément, je suis le directeur de l'association.
Oh. Et voilà, la première bourde. Il aura suffi de 10 secondes. Tu connais un peu, je t'ai présenté un petit peu en amont la structure de cette émission. Tu sais qu'on va parler de toi d'abord, puis ensuite d'un prétexte et enfin de cette partie du tout qu'on va parler, ouais, de ce qu'apporte un prétexte à la société en général et des enjeux qu'il y a autour de ce que tu fais. On va commencer par ton parcours personnel en fait. Qu'est-ce qui t'a amené Qui étais-tu avant de créer un prétexte?
Alors déjà, merci pour l'accueil et merci de m'avoir invité dans cette émission. C'est vraiment chouette de m'avoir ici et de vous rencontrer. Alors moi, je suis un pur produit du monde académique. J'ai vraiment eu une carrière qui sort de la faculté avec licence, master, doctorat de manière assez linéaire, on va dire. J'ai un parcours qui est plutôt scientifique en chimie et en physique. Donc moi, mon parcours, c'est de la... Enfin, si je reviens sur mon doctorat, on parlait de la structure de l'ADN. Donc c'est des processus chimiques, mais qui étaient étudiés avec des principes de physique, en utilisant des algorithmes et des approches de mathématiques. Donc c'était quelque chose qui était de base extrêmement interdisciplinaire, parce qu'en plus, l'ADN, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le milieu biologique. Donc vraiment, tout y était, quoi. On avait vraiment tout. Et pour ce qui est de justement mon parcours, j'ai connu le milieu académique jusqu'à la thèse en 2017. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle des postdoctorats, donc des genres de CDD de recherche. J'ai fait 3 ans en Belgique et ensuite 2 ans en Espagne, à Madrid. Et ensuite, j'ai démissionné pour une reconversion professionnelle afin justement de monter cette initiative, Un Prétexte, dont on parlera plus ensuite dans l'émission. Et me voilà ici face à vous.
Et c'est un plaisir de voir que il y a des pas de côté, un peu comme le mien en fait. Je te l'ai pas trop expliqué, mais moi c'est un peu c'était un peu la même chose. J'ai commencé une carrière académique en réalité. J'ai commencé par de l'ingénieur de recherche dans un labo, puis un début de doctorat que j'ai laissé tomber aussi pour me reconvertir. Donc content de voir que il existe des voies comme la tienne. Je vais passer à ma question suivante. C'est une question qui traite des événements, des rencontres, des lectures qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont poussé à t'intéresser, en l'occurrence à la culture scientifique, à l'interdisciplinarité, à l'engagement citoyen.
Alors moi, plus personnellement, ce que je dois avouer, c'est ça vient principalement du fait que j'étais très embêté par le cloisonnement que je ressentais dans le milieu académique. Donc c'est pas forcément une lecture, c'est pas forcément quelqu'un qui m'a inspiré ou quoi que ce soit, c'est plus que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je sentais vraiment que un contact avec la vie réelle manque un petit peu dans le milieu académique, un contact avec les citoyens, une légitimité auprès des citoyens, une valorisation des travaux de recherche auprès du grand public. En fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Et la deuxième chose aussi, moi, qui m'a motivé à lancer un peu cette initiative et qui m'a lancé un peu dans la communication des sciences et la diffusion de la culture scientifique, c'est que même au sein de conférences entre scientifiques où on se retrouve et on se connaît et on parle de la même chose, il y a un manque véritable de vulgarisation scientifique où on a vraiment même du mal parfois à communiquer parce qu'on n'est pas capable de vulgariser ce qu'on fait auprès de nos pairs et auprès de nos collègues et de nos collaborateurs. Donc vraiment là, ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses histoire de me dire que il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Ah, c'est assez drôle parce que c'est vrai que quand tu fais de la recherche, peu importe, ouais. même quand tu es en master, tu es en M2 dans ton stage, tu te rends compte très vite que c'est difficile, que tu es pris pour un hurluberlu de 1, hein, quand tu es dans une soirée normale avec des gens qui ne sont pas de la recherche. Ouais. Et d'une part ça, et d'autre part,
mais
effectivement,
pas du tout.
Ah si, carrément, les marrants en est témoin, il est mort de rire dans la régie. Et ouais, mais en fait, il a crêché chez moi pendant que je faisais mon début de thèse, et il m'entendait parler de mes petits machins qui se passaient à des niveaux microscopiques dont il n'y a que moi qui avait grand chose à faire. Et voilà, donc il y a ça d'une part, et en plus de ça, c'est vrai que t'as beau vouloir essayer d'expliquer un truc qui est incroyable pour toi, c'est pas facile parce que t'as l'habitude d'avoir cet attirail très mathématique typiquement voilà.
Et pour rebondir, on se retrouve souvent aussi dans des repas de famille où on doit expliquer ce qu'on fait comme travail, et c'est extrêmement compliqué de dire aux gens qu'on fait un vrai travail et qu'on fait quelque chose qui tu ne pourras pas comprendre parce que tu n'as pas les bases en science ou tu n'as pas les bases juste simples de vulgarisation scientifique pour comprendre ce que je suis en train de faire, mais c'est quand même un vrai travail.
C'est vrai. Moi, j'ai pas trop vécu ça, ça va, j'ai de la chance, je suis assez... J'étais assez protégé de ce côté-là, mais c'est vrai que depuis que j'étais gamin, tu sais, j'étais un peu le mec perché, tu sais, le scientifique de la famille, un peu un des rares à avoir un bac S.
Pareil.
Là-dedans, voilà. Là, très vite, tu perds tout le monde. On va passer doucement de ton parcours à un prétexte, et du coup ma question c'est par rapport à... J'aimerais que tu nous racontes la genèse de cet asso, donc moi je la connais, mais ça me ferait plaisir.
Alors la genèse de l'asso, ça date de quand je faisais ma thèse à Nancy, donc là on est en 2015, et donc lors de ma thèse à Nancy, il y avait un endroit qui rassemblait véritablement tout le monde sur la faculté des sciences de Nancy. C'était un bar associatif où on se retrouvait entre chercheurs, entre étudiants, entre stagiaires, entre directeurs de thèse et entre thésards pour discuter de science, pour discuter vraiment de tout et se partager plein d'informations, vraiment histoire de se rencontrer, de discuter de la science, de créer des nouveaux projets, des collaborations, etc. etc. Et ce lieu qui était hyper précieux pour moi, où on était tous les soirs, a dû fermer à cause du doyen de la faculté qui trouvait qu'on exagérait un petit peu. Bon, ce qui est vrai que bon, on picolait pas mal et ça allait vraiment très tard dans les soirées sur une faculté qui était censée être fermée normalement à partir d'une certaine heure. Mais cette faculté, ce local a fermé uniquement et pouvait rouvrir uniquement dans les situations où on organisait des événements officiels. Donc il y a eu pas mal de concerts, il y a eu pas mal de, je sais pas, de pièces de théâtre, des choses comme ça. Et moi, je voulais un peu apporter ma pierre à l'édifice. Et à la base, justement, d'où vient le nom de l'association, c'était clairement un prétexte pour continuer à aller dans ce local, à aller continuer à boire des bières et à continuer à se retrouver à cet endroit-là. Et on a organisé les premières conférences de vulgarisation scientifique de l'initiative Un Prétexte à la base. C'était un collectif parce que c'était pas encore une association. Et on a organisé sur ma dernière année et demie de thèse 13 événements, quelque chose comme ça. On se retrouvait tous les mois. Et c'était vraiment à la base un prétexte pour boire des bières. Mais c'était sur la fin surtout un prétexte pour se retrouver et pour parler de science. Et on avait vraiment réussi à créer quelque chose de collectif où les gens attendaient ce moment-là. On était vraiment toujours complet. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais même... plus de gens qui venaient aux événements encore qu'aujourd'hui, quoi. Mais bon, parce qu'il y avait beaucoup de bières à côté, donc ça attirait vraiment.
Beaucoup de bières et peut-être une fac avec des gens qui avaient un intérêt...
Oui, c'était plus à l'échelle de la faculté à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai voulu quelque chose de plus citoyen, de plus proche des gens, ce qui me permettait justement d'attaquer ce dont je parlais tout à l'heure, le décloisonnement du milieu académique, qui est très difficile à gérer aujourd'hui.
Non, c'est clair. Alors moi je t'ai connu à l'époque il y a un an à peu près maintenant, à peu près un an, au White Rabbit sur une conférence de vulgarisation scientifique, d'ailleurs autour du thème de l'ADN, mais entre temps t'as pas mal diversifié tes actions, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Alors, on fonctionne principalement... Donc, ce qu'on organise, ce sont des conférences de vulgarisation scientifique et de diffusion de la culture des sciences, qui sont pour du tout public, principalement en soirée. et lors desquels on fait intervenir plusieurs personnes. Donc l'idée, c'est d'avoir 4 ou 5 intervenants, des interventions très courtes, très dynamiques, avec des séances de questions-réponses, et ça doit être toujours très vulgarisé, afin vraiment de pouvoir être inclusif pour les gens qui n'ont même pas de formation scientifique. On veut vraiment pouvoir parler à tout le monde. Donc on a diversifié nos activités en fonction des différentes grandes thématiques, et ça forme des grandes séries de conférences. Donc on a la première série dont tu parles, qui est la série Ramène ta science, où ce ne sont que des doctorants de l'université qui interviennent, et c'est principalement des sujets bons. Un peu plus scientifiques que les autres. On va parler de mathématiques, de physique, de nucléaire, de chimie, des virus, etc., etc. On en a une autre qui est celle que vraiment qui me tient à cœur parce que ça me permet vraiment de lier tous les milieux de la société marseillaise. C'est les conférences sur les transitions où on va parler de l'aménagement urbain, de la gestion de l'eau. Bientôt, on va parler de la forêt. On va parler même d'alimentation solidaire, de choses comme ça. Et donc, vraiment, là, on essaye d'allier toujours des scientifiques, des politiciens, des dirigeants d'associations, des collectifs citoyens, etc., etc. Et on en a d'autres plus basés sur l'esprit critique, donc lutter contre les fake news, la désinformation, des choses comme ça. Mais on ne fait pas que ça aussi. Donc l'association à prétexte aujourd'hui commence à avoir un petit peu un impact sur la société, je ne sais pas trop comment le dire, où on fait beaucoup de coordination d'événementiel et on fait du soutien à l'organisation d'événements. Donc on propose nos lieux, on propose des intervenants, on propose de la stratégie d'organisation, on propose des idées pour des financements, des contacts, etc. Donc on est quand même pas mal sollicité aujourd'hui pour ce genre de choses. Ensuite aussi on propose des prestations d'organisation d'événements, donc de l'événementiel tout simplement pour la culture des sciences, et ça peut être à destination des chercheurs, des laboratoires, des instituts de recherche, des entreprises ou de la mairie de Marseille, des musées, des choses comme ça. Et la dernière chose qui est un petit peu en création aujourd'hui, qu'on ne fait pas encore vraiment mais qu'on a vraiment envie de mettre en avant, c'est la mise en place d'ateliers plus pour l'éducation populaire. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Des événements de plus petite ampleur avec une quinzaine de personnes dans des lieux très accueillants où on peut juste s'asseoir autour d'une table et parler de choses, partager des savoirs, des connaissances sur des sujets précis, que ça peut être la société, la santé mentale, la place de la femme dans la société, etc. Des sujets scientifiques, des sujets écologiques. Vraiment, ça peut être très varié.
Bon, on en reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont intimement liés à la société, puisque en fait notre société elle est de plus en plus technologique aussi.
Et oui, bien sûr.
Et donc forcément. Et du coup, comment est-ce que tu choisis quels intervenants à parier avec quel public?
Alors ça, c'est une question qui est hyper multifactorielle. Ça dépend. Alors, c'est vrai qu'au départ, on organisait nos événements dans notre côté. Enfin, on choisissait les thématiques, on choisissait les lieux parce qu'on connaissait personne et personne nous connaissait, donc on faisait un peu notre popote. Mais au fur et à mesure du temps, on a vraiment commencé à construire des partenariats assez avancés avec plein d'entités, on va dire, à Marseille qui nous contactent maintenant pour co-construire des thématiques dans le milieu académique, dans le milieu associatif et même dans le milieu politique de Marseille. Donc on co-construit les thématiques et c'est à nous après de faire tout le travail d'organisation, le travail de trouver des intervenants. Donc pour trouver des intervenants, je fais un maillage de tout ce qu'on peut trouver à Marseille avec un classement de qui est le plus légitime. Laisser un peu la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude d'intervenir, de présenter ce qu'ils font, histoire de d'être un peu plus inclusif, pas que chez les participants, mais aussi chez les intervenants. Trouver les lieux adaptés en fonction des événements. Si on parle de mobilité douce, on peut faire un événement, par exemple, à la Maison du Vélo, à côté de la Blancarde. Si on parle de transition, on peut être à la Cité des Transitions, etc. C'est très, très varié. Très varié sur les thématiques, les lieux, les intervenants.
Ouais, ok. J'imagine que ça dépend, du coup, finalement, en fait, pas mal de la thématique.
Ça dépend beaucoup de la thématique. Ça dépend de qui nous accueille. Oui, vraiment, et puis ça dépend aussi de nos envies personnelles. En vrai, j'essaye de faire cette association à mon image, donc si j'ai envie de bouger, si j'ai envie d'être ailleurs, si j'ai envie d'être dans un bar plutôt que d'être dans un restaurant ou dans une salle un peu froide et désagréable, je le fais comme je le sens.
Ouais, c'est un truc qui m'avait particulièrement marqué, je t'avoue, le White Rabbit, en plus que à l'époque je connaissais pas, mais le bar très hard rock et du coup un lieu complètement atypique pour entendre parler d'ADN.
Ouais.
Et c'est un truc que j'avais kiffé moi à l'époque. Donc, et puis c'est vrai que tout d'un coup ça devient, pareil on en reparlera un petit peu plus tard, mais tout d'un coup ça devient du divertissement quoi, c'est plus tellement du sérieux et tu prends du plaisir à écouter des gens raconter des choses qui sont Moi, j'avais pas compris grand chose, hein. Mais le peu que j'avais compris, ça m'avait super interpellé, tu vois. Ouais. Et en fait, ça avait, enfin, j'avais compris le déroulement de la pensée, mais tu vois,
ça stimule le cerveau et ça rend inclusif et ça donne envie d'apprendre des choses.
Complètement. Ouais, est-ce que t'as envie de nous parler un petit peu plus du process de programmation, de comment est-ce que tu construis un événement de bout en bout? Je sais pas si tu veux prendre un exemple.
Oui, on peut en parler vite fait, mais c'est vraiment, finalement, en fait, j'essaye de faire de la culture des sciences et de la diffusion de la culture scientifique de l'événementiel classique, de l'événementiel où les gens vont pouvoir s'y retrouver. Parce que les gens savent très bien ce que c'est qu'un concert, ils savent très bien ce que c'est que, une pièce de théâtre, aller dans un endroit, un événement. Mais c'est vrai que la culture des sciences, ça fait toujours un peu peur. On se dit, ça va être une conférence qui va être chiante dans un amphi, ça va être froid, ça va être désagréable. On va s'ennuyer au fin fond d'un siège. Et j'essaie vraiment un petit peu de changer les codes de ce truc classique pour presque créer quelque chose qui est plus divertissant afin d'être vraiment inclusif et de faire moins peur. Histoire d'attirer des publics qui spontanément n'iraient pas vers des sujets scientifiques, des sujets techniques, des sujets dont ils vont se dire je sais rien donc je vais pas y aller parce que ça me fait peur, mais en fait si viens, t'apprendras forcément quelque chose même si tu comprendras pas tout, c'est pas grave.
Oui, au pire tu poses des questions.
Voilà.
Je crois que les scientifiques, ce qu'on préfère, c'est quand on nous pose des questions, puis ça veut dire qu'au moins t'as
pas
un
tous
intérêt.
Mais oui, c'est vrai. J'en ai beaucoup qui stressent surtout pour la séance de questions parce qu'ils savent qu'en face ils ont des citoyens et des gens qui sont plutôt profanes. Et ils disent oh là là, je vais pas avoir les réponses, on va me poser des trucs qui sont pas du tout dans mon domaine parce que les gens comprennent pas. Mais en général, quand ils arrivent là, ils sont à l'aise et puis ça passe, quoi.
Si je peux me permettre une petite remarque rassurante, on peut se poser la même question même quand on parle pas de vulgarisation scientifique. On avait encore l'exemple avec un plateau radio cette semaine sur l'avenir de l'ESS. Dès qu'on touche à des enjeux qui touchent la société, toute personne qui est là et qui a envie de parler, on sait pas ce qui va se passer. Ça peut être politiquement brûlant, ça peut être une personne qui veut faire de l'autopromo, qui a envie de critiquer quelqu'un. Il faut savoir accepter le jeu de l'ouverture de la parole.
Exactement.
Absolument, c'est vrai. Et moi, il y a un autre truc qui m'interpellait, c'est que dans ce que tu disais à l'instant, c'est que moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils m'emmenaient tout le temps à la fête de la science. Et tu sais, c'est cet événement qui est pour tout le monde, mais quand même axé un peu plus pour les enfants, on dirait. T'as une pédagogie un peu ludique autour des sciences. Et en fait, c'est, je sais pas si quand on est grand, on n'a plus le droit de jouer. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais tout d'un coup, on est obligé de passer à la conférence scientifique. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Et je trouve ça super dommage. Ouais, ouais. Je suis féru de jeux de société. Il y en a quelques-uns qui te parlent d'enjeux de société scientifique. Et ça devient un truc. Hein, voilà. Et du coup, voilà.
Oui, on revient sur le fait qu'il faut faire quelque chose de ludique, en fait, pour attirer les gens. Pas quelque chose de chiant où on est au fond d'un fauteuil et on écoute quelqu'un pendant une heure, quoi. Ouais. C'est vrai, il faut rester un peu des grands enfants et on a le droit d'apprendre toujours des choses jusqu'à la fin, quoi.
Bah oui, surtout, ouais. Apprendre des choses, enfin, se dire qu'on n'a pas toutes les connaissances, de toute façon, on les aura jamais.
Ouais.
De toute façon, quand on va voir un film au ciné, on ressort toujours avec un message, quel qu'il soit, de notre interprétation, là, ça peut être un peu pareil. Il y a des choses, c'est du factuel, les sciences, et des fois, ça fait peur, mais en fait, on peut en ressortir avec un message ne serait-ce que partiel. Et ça fait déjà plaisir d'avoir fait un pas là-dedans, quoi. Ok, moi j'ai une autre question qui diffère un peu, c'est par rapport à tes partenariats. Est-ce que tu as, parmi tes partenariats, j'ai noté les questions avec un « vous » et je t'adresse en « ton tu ». Peut-être que si tu veux éclaircir un petit peu aussi de qui est-ce qu'il y a dans…
Ah oui, on peut passer par ça. Ouais. Donc l'association, je l'ai créée à Marseille en 2022, donc c'est un collectif qui a été créé à trois doctorants en 2015, mais c'est moi qui gère l'association, enfin, qui l'ai créée, qui la gère. Je suis aujourd'hui directeur, je suis le salarié de l'association. Je suis tout seul, plus ou moins, à avoir toutes les casquettes. Hein. Ça va de la comptabilité aux relations publiques, politiques, subventions, organisation des événements, animation, etc. J'ai quand même pas mal de bénévoles qui sont derrière moi à me soutenir et à m'aider, surtout dans l'accueil des participants aux événements. Et on a un CA de gens intéressés par ce qui se passe, qui me soutient, qui m'aide, qui me donne un peu la direction et qui me dit quand je fais des conneries.
Bah, très bien. Et du coup, je vais parler vous.
Oui,
Parmi vos partenariats, donc j'ai noté université, structure culturelle, collectivité, association. Est-ce qu'il y a une, il y a un partenariat qui t'a particulièrement, qui vous a particulièrement marqué, aidé?
Oui, alors. Je vais en donner deux quand même. Il y a tout le monde un peu de la culture des sciences de Marseille avec que j'ai rencontré, qui me donne un petit peu une idée de ce qui se fait, qui me donne un petit peu le fonctionnement de la société marseillaise, voilà, sur de l'événementiel pour la culture des sciences. C'est quand même quelque chose qui est hyper important pour moi de savoir qui fait quoi, histoire de pas faire de la redite ou de pas faire un événement le même jour que les autres, etc. Bon, c'est déjà arrivé. Et principalement, bah, mon interlocuteur principal et mon collaborateur principal, c'est la Cité des Transitions qui, donc beaucoup de gens connaissent ici à Marseille, qui organisent des événements d'ampleur sur les transitions écologiques, et vraiment avec qui on a une manière de fonctionner qui est un peu parallèle et un peu presque dans l'amitié, j'ai envie de dire. C'est un peu le mot que j'ai envie de dire, l'amitié. Et c'est vraiment ce que je sors souvent. C'est parce que travaillant tout seul dans cette association, en étant le seul salarié, on a besoin un peu de collègues, d'amis, voilà, avec qui on sait qu'on va pouvoir travailler. Réfléchir à des partenariats, des événements, des collaborations, des partages d'informations, des partages de contacts. Et donc la Cité des Transitions, vraiment, c'est cette entité qui donne un souffle un peu à beaucoup d'événements que nous on fait et qui donne un souffle à plein d'initiatives sur les transitions écologiques à Marseille. Et donc ça crée un petit peu un grand réseau dans lequel on est immergé et qui nous donne beaucoup de motivation et d'envie pour la suite.
Absolument, bah, c'est un peu notre ambition ici à La Forêt, et d'ailleurs bah, la Cité, on a collaboré pas plus tard que lundi dernier avec eux pour le plateau de l'ESS dont parlait Marin à l'instant. Ça va être le moment de la pause musicale. Tu m'as envoyé trois morceaux et, ouais. Et tu m'as dit ouais, ils sont assez différents, et j'ai choisi celui que j'ai préféré, et je t'avoue que j'ai préféré en fonction du clip. Donc c'est Mézerg Watermelon que je t'ai choisi. Alors moi je l'ai choisi surtout parce que dans le clip, le mec a littéralement fait un synthé en coupant des tranches de pastèque, et il joue sur son synthé avec des tranches de pastèque.
Ouais.
Et au-delà du fait que la musique m'a plu, hein, mais est-ce que t'as envie d'en dire un mot de plus?
C'est quelqu'un que j'ai découvert voilà, au gré de mes explorations musicales sur YouTube, et il passait à ce moment-là à Marseille, à l'Espace Julien. Je suis allé le voir, c'était extraordinaire, donc oui, j'adore. C'est un peu un génie de la musique, je trouve.
Eh ben, on s'écoute ce génie de la musique avec son synthé pastèque.
Soleil, swimming pool.
êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 et vous écoutez toujours l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes toujours avec Hugo Gattuso qui est le directeur de l'association Un Prétexte. Et on va entamer cette partie où on va parler du tout, donc des impacts, des enjeux, des récits que porte Un Prétexte. Donc, ma première question, j'ai noté, au-delà des conférences, Un Prétexte porte des valeurs. Quel message, quelle énergie tu veux transmettre? Quelle ambiance tu souhaites que les gens retiennent après avoir assisté à tes événements? À vos événements, pardon.
Ouais, on en parlait déjà tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment envie que les gens aient l'impression de vivre quelque chose de divertissant. Quelque chose où ils sont accueillis de manière bienveillante, où tout le monde peut se sentir à l'aise de poser des questions sur les sujets qui sont discutés lors des événements. Il faut vraiment que n'importe qui puisse avoir envie de se diriger vers des événements de vulgarisation scientifique, parce que c'est pas uniquement réservé à une élite d'experts, que ce soit des scientifiques ou des CSP+, ou des ingénieurs. Ça doit vraiment être ouvert à tout le monde, et il faut que ce soit très accueillant, très bienveillant et très inclusif.
Oui, en préparation, et d'ailleurs ça se ressent un peu dans ce que tu dis, tu me disais que la concurrence, avec des gros guillemets, hein, mais c'est un peu les médias mainstream, c'est est-ce que tu préfères aller entendre parler, je reprends l'exemple, hein, mais d'ADN dans un bar, ou est-ce que tu préfères rester chez toi et regarder deux épisodes de ta série sur Netflix, quoi. Et du coup, qu'est-ce que... quels sont les ressorts que tu peux utiliser pour rendre en fait la science plus sexy, en fait, plus divertissante?
Ouais, alors déjà, ça se fait à plein de niveaux différents qui se sont mis en place naturellement. Déjà, il y a le choix des thématiques. J'essaie de parler beaucoup de thématiques contemporaines ou des thématiques qui vont parler aux gens. Pour donner deux exemples, sur les trois derniers mois, on a fait un événement sur le fonctionnement du cerveau, qui était un événement très scientifique, avec qui faisait partie de la série de Ramenta Science. Donc ce ne sont que des doctorants qui interviennent. Donc c'était vraiment de la science fondamentale, un peu dure, vulgarisée, hein, de très belle manière, avec des interventions très pointues, mais c'est vraiment des sciences fondamentales. Et il y a eu un engouement pour cet événement qui était incroyable, parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde, le fonctionnement du cerveau, et tout le monde est intéressé par ça, à tous les niveaux de la société aujourd'hui. Il y a un autre événement qu'on a organisé, c'était sur l'aménagement urbain, qu'on a essayé de classifier dans une société capitaliste, gentrifiée et validiste. Donc ça, c'est vraiment le sujet de l'inclusivité. Moi, ça me touche vraiment beaucoup, et ça a vraiment mené à beaucoup d'engouement et à beaucoup d'échanges très 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 intéressants. Il fallait être sur place pour voir tout ce qui se passait, mais c'était vraiment vraiment super intéressant. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les lieux qui nous accueillent. Donc déjà par leur diversité, mais aussi par leur caractère. Leur caractère chaleureux, j'ai envie de dire, que ce soit le White Rabbit sur la Joliette, où on organise ses conférences, voilà, c'est une belle salle dans un bar, c'est une salle qui fait aussi du stand-up, c'est une salle où il y a du karaoké. Donc vraiment, les gens ont l'habitude de s'amuser dans cette salle et c'est très ludique. Donc ramener des conférences scientifiques, c'est vraiment, ça me semblait hyper pertinent de par la manière dont j'ai envie de faire les choses. Le troisième truc qui est un petit peu mon petit secret, c'est que je fais exprès de faire un peu les choses à l'arrache. Les choses ne sont pas faites à l'arrache, tout est organisé de manière hyper hyper carré, hyper pointu. J'ai des Google Docs dans tous les sens avec des cases à remplir, etc. Mais dans la réalité, je pense que quand les gens arrivent, ils ont un peu l'impression que c'est fait à l'arrache, et c'est fait exprès. De par la manière dont je les contacte, la manière dont j'écris les mails d'invitation et d'inscription, de par la manière dont j'enregistre les données, où c'est encore une bête feuille, où il faut remplir des informations pour donner sa tranche d'âge, son genre, son adresse mail, etc. La manière dont je communique sur place, et la manière dont j'anime, et la manière dont je présente un peu les gens. Il faut que ça ait l'air vraiment comme à la maison, un peu, en fait. C'est aussi à mon image. J'ai envie que ce soit un peu comme à la maison, et qu'on soit plus entre copains en train de boire des bières et parler de science, plutôt que d'être dans un amphithéâtre où il y a le grand chercheur sur un piédestal, et nous, on est dans nos sièges et on n'ose pas poser des questions.
Et c'est vrai que ça participe, ce côté très, comme tu dis, comme à la maison, là, très homemade.
Ouais, homemade,
fait à la main, quoi. Ça participe à la détente que tu peux avoir aussi en arrivant à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que je me retrouve, ça résonne pas mal avec mon expérience de tes confs. Mathieu, je crois que tu avais une question.
Oui, tout à fait. J'avais une question par rapport à bon, récemment, surtout depuis l'élection de Trump aux États-Unis, il y a une vraie remise en cause de la science et des faits. Moi, mon exemple le plus parlant, c'est le rapport du GIEC, mais il y a une diminution, voilà, de enfin, parfois j'ai même l'impression qu'on veut bâillonner les scientifiques. Il y a quand même eu des faits récents où un scientifique français a été arrêté aux États-Unis. Enfin voilà, où il y a une baisse de la croyance en ces faits scientifiques, tant dans les médias que du côté politique. Et toi, qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? J'imagine, bon, évidemment que ça t'inquiète.
Oui, mon avis, il est très large sur le sujet. Et aujourd'hui, il faut avouer que dans les médias, on le voit à tous les niveaux. On peut le voir dans les médias mainstream. Il y a vraiment ce qu'on appelle le rejet des experts, qu'on retrouve vraiment dans des émissions que je ne citerai pas ici, mais je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Ça, c'est vraiment effrayant, et ça vient surtout du fait que le scientifique de base, il est là pour juste donner des faits qui viennent de son expertise, et en général, ces faits vont à l'encontre des narratifs et des récits politiques, économiques, etc., qu'on essaye de nous mettre dans les oreilles. Donc à partir du moment où il y a ce clash-là qui intervient, et ben vraiment, il faut essayer de diaboliser ou de minimiser la réalité des choses et de dire que le scientifique, ben non, c'est un expert, il sait pas de quoi il parle finalement parce qu'il est dans sa tour de cristal et il est trop en décalage avec la société et la réalité, donc ne l'écoutez pas parce que vous êtes pas comme lui et il est pas comme nous. Donc vraiment, il y a vraiment ce problème aujourd'hui de délégitimisation, j'y arrive, du scientifique. Et en fait, oui, le fait d'organiser des événements comme ça où on peut rencontrer des scientifiques, voir que c'est des gens normaux, à qui on peut poser des questions, qui sont pas juste des hurluberlus en blouse blanche dans un labo, ça rend quand même la chose un petit peu plus, proche de la réalité, et ça revalorise un petit peu leur statut auprès des citoyens.
Et si vous avez envie de porter la blouse blanche, sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat.
Finalement, il n'a pas tant qu'il porte la blouse blanche au final.
En plus, ouais, même pas. Mais c'est vrai que ouais, j'ai lu un... Ouais, parce que pour le coup, je lis une fois de temps en temps la Recherche, tu sais, c'est un magazine de vulgarisation sur... En ce moment, c'est axé sur... c'est des trimestriels que je lis qui sont axés sur un sujet. Et le dernier que j'ai lu, c'était sur le faux. Et ils expliquaient qu'en fait, on entre dans une ère de post-vérité, ouais. Où effectivement, les discours les plus valides, enfin, que les gens considèrent les plus valides, sont pas nécessairement ceux qui sont vrais, en fait, scientifiquement vrais. Et on voit, l'exemple de Trump, il est ultra parlant. Le mec balance des conneries, mais sans cesse. Et en fait, il représente les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays développé, et une grosse partie en plus des citoyens des États-Unis d'Amérique, et qui vont prendre ce qu'il dit comme argent comptant sans se poser la question de qui, de quoi, de qu'est-ce. Et ça fait, ça fait de mal au cœur déjà, et ça fait du mal à la vérité en soi, à tel point que on entre dans des airs où en fait c'est plus la vérité qui prévaut, quoi. Et merci du coup de te battre activement, de vous battre activement contre...
C'est une petite initiative, mais c'est vrai que pour aller plus loin, on va pas rentrer dans le débat de l'intelligence artificielle, mais ça va complètement dans cette direction où on sait plus discerner le vrai du faux, et donc il faut trouver des espaces où on peut avoir des informations qui viennent directement de la personne qui a fait ces informations et ces données, à qui on peut poser des questions. Vérifier les choses directement sur le tas, ça permet quand même de légitimer la posture des experts, et on revient dans la vérité, alors que dans la post-vérité, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, et ça vraiment c'est un peu un problème à combattre.
Et on peut parler en deux mots d'IA aussi, mais ce que ça m'évoque très rapidement sur ce que tu dis, c'est que déjà vous pouvez demander, je pense à ChatGPT, mais vous pouvez lui demander de citer ses sources. Vous pouvez activer la recherche web et lui dire, à chaque fois que tu me fais une affirmation, tu me mets le lien, et derrière c'est à vous quand même de cliquer sur le lien et de vérifier qu'il l'a pas travesti, parce que il y a ça derrière, mais vous pouvez lui demander désormais de faire ça, et je pense que Hugo se joint à moi pour vous encourager.
Ouais, bien sûr, c'est toujours un travail supplémentaire. Recouper les informations et recouper les données, Nous, les scientifiques, on a été formés à ça et on le fait très bien, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas formé à ça, c'est un travail qui est très fastidieux, très compliqué, et on préfère juste croire ce qu'on entend, parce que c'est plus confortable et facile.
Ah, complètement. Et l'autre truc par rapport à l'IA, c'est que, par contre, même ça, ça ne vous enlève pas, comment dire, ça ne vous entraîne plus, en fait, à faire fonctionner cette... la machine qui est le cerveau en fait, hein, construire un argumentaire ordonné avec des liens de causalité, etc. C'est un exercice qui s'entraîne et plus on le fait par soi-même, peu importe le sujet, plus derrière on est capable de le faire avec moins d'efforts. Mm. C'est toujours ça. Hein. C'est la même chose que de la muscu, mais pour le cerveau.
Donc, oui. Voilà. D'une certaine manière.
Utilisez ChatGPT pour vos petites besognes, peut-être pas pour réfléchir trop longtemps non plus.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, moi. Je ne sais pas si je suis un exemple, hein, par ailleurs. Mais voilà, ces deux petits tips. Ok, donc revenons sur notre sujet principal, qui est quand même, la médiation en général, et la médiation scientifique en particulier. On a parlé tout à l'heure de ta collaboration avec la Cité des Transitions, avec les réseaux d'acteurs du coin. Quels sont les intérêts que tu as à collaborer avec tout ce monde-là ?
Oui, je pense que de toute façon, l'important, c'est de créer un réseau. Individuellement, on ne fait pas grand-chose, finalement. On fera quelque chose de bien et on touchera beaucoup de gens et on sera important dans la société et on aura un impact. Que si on est tous associés, alliés, et si on fait des choses en collaboration et comme une grande famille de la culture scientifique. Aujourd'hui, moi, ce que je vois dans la société marseillaise, c'est qu'il y a quand même quelques initiatives. Alors finalement, il n'y en a pas tant pour la taille de la ville, parce que c'est quand même la deuxième ville de France en termes de population, et la quantité d'initiatives pour la culture des sciences, il y en a plein, mais tout est éparpillé dans des petits coins, et le ratio... En nombre d'événements par nombre d'habitants, il est quand même assez faible. Et donc, il faut vraiment une structuration du réseau de la diffusion de la culture des sciences, histoire de toucher les gens, de les motiver à aller vers de nouveaux événements, proposer des choses à tous les niveaux de la société, que ce soit pour des entrepreneurs ou pour des citoyens lambda ou pour des scientifiques déjà sensibilisés à ce genre de choses, pour des étudiants, pour tout le monde. Il faut vraiment quelque chose qui soit fédérateur et structuré. Donc c'est un peu ça que... Bah, c'est pas forcément quelque chose qui m'est apporté par les autres acteurs de la culture scientifique, mais de par leur rencontre, en fait, ça stimule une volonté de créer quelque chose à plusieurs et de créer des collaborations.
Mmh. Et du coup, ça, j'imagine que ça te permet aussi cette grosse interdisciplinarité. Puisque tu fais rencontrer des acteurs qui agissent sur les mêmes thématiques mais à des niveaux différents, peut-être un chercheur en urbanisme, il va peut-être avoir un regard assez différent de quelqu'un qui est sur le terrain et qui est un aidant d'un proche handicapé par exemple, enfin j'en sais rien, sur la thématique de l'inclusion, et du coup j'imagine que ça te permet aussi de ça favorise cette interdisciplinarité et voilà, le croisement de différents savoirs, différents pas niveau parce que ça sous-entend une gradation, mais ouais, tu vois.
Ouais, différentes approches.
Oui,
vraiment. Et ça, vient de mon parcours personnel où à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma vie, je ne traînais qu'avec des scientifiques dans un milieu extrêmement cloisonné et un peu biaisé, un peu à l'écart de la réalité des choses. Et donc, la volonté d'un prétexte et la volonté de certains de mes événements, et principalement la série des conférences des transitions, où on parle de transition écologique et sociale et sociétale et environnementale. Et bien dans ces événements, j'essaie toujours d'avoir quelque chose le plus interdisciplinaire possible. Et c'est ça vraiment qui me plaît. C'est ça que je trouve qu'il y a vraiment un impact sur la société, où on met en face à face un chercheur, un politicien, un gérant d'association. On a fait intervenir des collectifs citoyens et on les met vraiment sur un pied d'égalité face à des citoyens qui finalement eux aussi se retrouvent à être à égalité avec eux, parce qu'il n'y a pas vraiment de supériorité. Tout le monde est vraiment... C'est vraiment hyper horizontal. Et je dois vous avouer que c'est assez jouissif de voir les scientifiques se décomposer face à des politiciens ou d'autres intervenants, parce qu'ils n'ont pas du tout les codes, en fait. Ils ont l'habitude d'interagir entre eux, d'être entre scientifiques. Et alors là, ils ont bien les codes, ils s'en sortent bien, ils sont contents. Mais être face à des citoyens dans une situation où ils sont face à un élu de la mairie de Marseille, par exemple, ou le dirigeant d'une grande association marseillaise, vraiment, ça casse vraiment les codes et c'est très sympa à voir.
Oui, j'imagine. Et en même temps, c'est des savoirs qui sont très différents. Tu vois, réussir à parler avec Bagou de peu importe le sujet, prendre 3 secondes pour réfléchir et être capable de dire quelque chose qui a l'air pertinent alors que ça n'est pas forcément le taf d'un politicien.
Oui, bien sûr.
Et pas celui qu'on t'enseigne en master sciences physiques, chimie, maths, tout ça. Et par contre, ouais, effectivement, de la même façon que les équations du second degré différentielles.
Ouais, les équations de mécanique quantique ou des choses comme ça. Ouais. Oui, c'est un peu plus pointu.
Exactement. Ok, je crois que j'en arrive à, tout doucement à ma dernière question. Tu m'as parlé d'évolution vers des nouveaux formats. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus?
Ouais, dans l'association Un Prétexte, j'ai vraiment énormément de projets qui sont sur le feu, qui viennent du fait qu'en discutant avec les gens, je me rends compte qu'il y a un peu un manque en culture scientifique à Marseille. Enfin, il y a certains aspects de la culture scientifique qui manquent dans la ville de Marseille. Et donc, principalement, pour moi, ce serait de la captation vidéo. C'est vraiment le numéro un des choses que j'ai envie de faire. Ça demande des subventions, ça demande des financements, ça demande de l'équipement. Mais c'est quelque chose qui est en cours et voilà, ça viendra. Et on me le demande tellement souvent que non, mais là, vraiment, il faut que je le fasse. Hein. Je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui m'ont demandé une captation vidéo et que je n'ai pas encore pu mettre en place. Mais vraiment, c'est très compliqué. Et la deuxième partie, c'est vraiment l'éducation populaire, c'est de trouver encore un format supplémentaire qui permettra de toucher de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles, on va dire, strates de la société marseillaise, mais vraiment à tous les niveaux, que ce soit, je sais pas, les quartiers bourgeois, comme les quartiers nord. Vraiment, c'est de trouver des situations où on peut apporter un petit peu un éveil à la culture scientifique, à vraiment tout le monde, à toute la société.
Et sur cette deuxième question, tu sais, enfin, je sais pas si t'avais fait de l'enseignement quand t'étais thésard.
Bien sûr.
Et moi, j'ai pas fait l'enseignement, j'ai fait un parcours médiation scientifique.
Okay.
Ça existe dans certaines facs. Et en fait, rapproche-toi peut-être de la CST de l'AMU.
Bien sûr, mais je les connais très bien. Je les connais très bien. J'ai déposé une demande pour une délégation de culture scientifique pour qu'un doctorant puisse venir chez Un Prétexte et ça a été refusé.
Ah mince. Ouais, mais en fait, ils ont du mal déjà à gérer le. Ils ont pas mal de volume en fait de choses qu'ils proposent. Et derrière, on est peu. On était peu de doctorants.
Et pourtant, je connais énormément de doctorants dans mon réseau aujourd'hui, parce que j'ai un réseau assez étendu maintenant dans le milieu doctorant, forcément, parce que j'en fais intervenir plein, qui auraient souhaité pouvoir venir faire des choses chez Un Prétexte, mais j'ai pu les rencontrer et on a pu discuter de ça, donc il n'y a pas de souci.
Ouais, mais je te disais plus sur le fait de. Tu sais, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on faisait des interventions dans des endroits un peu insolites, tu vois. Par exemple, on était dans un centre commercial un samedi après, enfin un samedi, et du coup t'avais des gens de tout le monde, quoi. Tout un chacun pouvait s'arrêter à plein de tables différentes autour de plein de thèmes différents. C'est souvent les parents qui s'arrêtent avec leurs enfants, encore une fois il y a le lien vraiment de t'essayes de faire attiser la curiosité de tes enfants, mais la tienne quand est-ce que tu l'attises. mais ouais, aller vers les gens, c'est un truc qui dans mon expérience m'a énormément plu, parce que tu te retrouves avec qu'avec les gens curieux, quoi.
Et le centre commercial est un très bon endroit pour faire ça.
Un marché dans un quartier,
le marché, les restaurants, les bars, les endroits qui accueillent vraiment le grand public, c'est les meilleurs endroits pour essayer d'éveiller la curiosité des gens.
Carrément. Moi, j'en garde un très très bon souvenir de cette expérience, donc j'en profite pour leur passer un petit coucou si d'aventure ils nous écoutent. Et on va passer tout doucement à la dernière partie de cette interview. Donc ça a plein de noms. Moi, j'ai décidé de garder celle du Jungle Speed parce que c'est un jeu de société que j'aime bien par ailleurs. Donc voilà. Et je t'envoie, tu le sais, quelques questions assez rapides. Et normalement, tu as un peu préparé les réponses comme ça.
Tout à fait.
Petit montage dynamique et tout. Et ça nous fera de la pub. Alors, dans 10 ans, si Un Prétexte avait réussi sa mission et que la vulgarisation et le partage des savoirs étaient la norme pour tous, quelles histoires ou enjeux n'aurait-on plus besoin de raconter?
Alors, on verrait une société où il n'y a plus aucune dérive complotiste, où il n'y aurait plus de désinformation dans les médias ou alors à tout niveau de la société, par exemple au niveau des politiques, bien évidemment, et les gens seraient tous munis d'un esprit critique en acier.
Qu'est-ce qui se serait transformé dans le quotidien?
Je pense que tout le monde aurait une base égale de compréhension du monde et de son fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'égalité des chances dans la société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
quelle image ou scène incarnerait ce futur ?
Je pense que ce futur, moi je le vois avec des gens qui sont tellement devenus curieux de la culture des sciences en général, que tous les événements qu'on proposerait seraient archi complets et ça deviendrait vraiment une galère à les organiser.
Quel mot ou expression résumerait cette nouvelle réalité ?
Esprit critique, esprit critique, esprit critique, et c'est la base.
Et dès demain, quel petit geste simple chacun peut-il poser pour favoriser le partage des savoirs ?
Ce n'est pas un geste, ou alors c'est un geste mental, mais ce serait vraiment de simplement se poser des questions. Poser des questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit, sur ce qu'on nous dit, sur le monde et sur son fonctionnement, et après le reste viendra tout seul.
Et bah, impeccable. je vois Marin qui nous fait un petit coucou.
C'est pas un coucou, c'est une manière d'applaudir sans applaudir.
Ah, merci pour les applaudissements silencieux.
Et ben, cette interview touche doucement à sa fin. En conclusion, je vais te poser deux, trois petites questions quand même, histoire de se dire au revoir. La première, c'est comment peut-on rejoindre un prétexte, soutenir vos actions, participer, devenir intervenant ?
Alors, la meilleure manière déjà de nous trouver, c'est sur Instagram. Donc, l'Instagram, c'est @unprétexte_Marseille. C'est unprétexte.marseille, pardon. Ouais, je me trompe. On a un site internet, www.unprétexte.com. On peut nous trouver sur LinkedIn aussi, en passant par mon profil, Hugo Gattuso. On peut nous trouver après à plein d'endroits différents, parce que je mets un petit peu des flyers partout dans la ville de Marseille. Et si on veut collaborer avec nous, il suffit de m'envoyer ou bénévoler. On peut m'envoyer un mail sur unprétexte.marseille@gmail.com.
Et ben, j'espère que vous avez noté tout ça. Quelles sont tes actualités imminentes ? Donc, on se rappelle qu'on sera en janvier quand
oui,
cette
tout à fait.
Émission est diffusée.
Alors, normalement, il est censé y avoir dans quelques jours un événement le 13 janvier qui s'intitule Alimentation solidaire et sociale, quel modèle ? Donc, on invite plein d'initiatives marseillaises qui vont nous parler justement d'alimentation sociale et solidaire, comme par exemple la Comac qui va mettre en avant la sécurité sociale de l'alimentation. On va avoir la Marmite Joyeuse qui va nous parler de son modèle de fonctionnement. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres intervenants, mais je suis sûr qu'ils existeront à ce moment où l'émission passera.
Et c'est où, quand ?
Ce sera à la Marmite Joyeuse le 13 janvier en soirée à partir de 18h45.
Impeccable. Bah, j'essaierai de venir, c'est à côté de chez moi.
Avec plaisir.
Et du coup, pour finir sur une note d'imaginaire, si tu devais inventer un titre de conférence ou d'événement symbolique qui résume ton engagement, ce serait lequel ?
Alors, j'espère que vous aurez la référence, mais ce que j'ai choisi, c'est « La science, c'est si incroyable que c'est à peine croyable ».
Je suis pas sûr d'avoir la référence.
Ah, ben c'est bientôt.
Moi, je l'ai. Ah. Je l'ai. Je pense que aujourd'hui même, son père a été condamné
et
pour
oui.
le fait de ne pas avoir respecté la loi en matière de financement de campagne en 2012. Il a été en prison pendant 20 jours. Son papa s'appelle Nicolas. Il s'appelle Louis. On parle évidemment de Louis Sarkozy.
C'est bien Louis.
Ben voilà, c'est super dommage qu'on se quitte sur ça, quoi. J'ai pas envie qu'on se quitte sur les Sarkozy.
Si, il faut parler d'eux parce que bon, c'est voilà. Un peu.
Mangeons des mangues, c'est vraiment fabuleux.
Surtout après une balade à cheval.
Et ben écoute, t'as noté en gras à la fin de ma petite feuille de préparation, vous n'avez pas besoin d'un prétexte pour venir partager une bière avec nous. Je trouve que c'est quand même une meilleure note de fin.
Oui, allez, on va partir là-dessus.
Et ben bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. Merci à toi Hugo d'être venu. Merci à Marin, merci à Mathieu.
Merci Félix.
Très bonne soirée.
Et merci de l'invitation.